Franco Douiman.
Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 15 avril 2020. Voici les grands titres de cette édition. La production du coton a sensiblement chuté en Provence et Bouvanza à cause de la réduction des réserves cotonnières, passées de 9 000 à 3 000 hectares sur tout le pays. On aura les explications du directeur général de la compagnie de gérance du coton. Et certaines classes de l'école fondamentale de Moukoni en commune Routovou de la Provence et Bururi n'ont pas eu de résultats du deuxième trimestre parce qu'une tricherie a été constatée. Le directeur de cet établissement impliqué dans cette affaire serait en cavale depuis ce lundi. Il est recommandé à la population de se prévenir contre la psychose qui découlerait du flot de messages sur le coronavirus et qui passe par les réseaux sociaux. Vous entendrez les explications d'un psychoclinicien. Voilà pour le sommaire. Bonjour, la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, FENADEB en sigle, demande à la justice et à tout défenseur des droits humains de mener une enquête sur la mort d'un enfant de la commune Gihogazi en province Karuzi. Un enfant mort des suites de coups et blessures. Isidore Netourouye, coordinateur national de la FENADEB, se réjouit quand même des actions du gouvernement en matière de protection des droits de l'enfant, mais dit que cela nécessite une amélioration. Suivez-le, il a été joint au téléphone par Ezekiel Ndikoumouenaï.
Nous sommes très affectés par cette mort d'abord, ensuite concernés d'entendre qu'il y a des gens qui s'adonnent aux tortures des enfants. Face à cette situation, nous interpellons d'abord les agents de la justice pour mener une investigation profonde et faire comparaître cette personne qui est coupable d'avoir infligé des coups mortels à cet enfant. Parce que dans la réglementation burundaise, la loi est appliquée par les chargés de cette responsabilité et non un individu pour lui-même infliger des jugements aussi atroces. Ça me semble un peu incohérent de savoir qu'une personne qui a subi des tortures, qui a été frappée sur le corps et qui présente des hématomes ou des blessures, qu'on commence à lui tester la malaria. Ça me semble un peu anachronique, mais je ne conteste pas un document avant que la justice n'en dise quelque chose. Mais il faut tirer l'attention sur cette situation. Une personne qui est présentée dans un milieu hospitalier parce qu'il a été tabassé et présente une situation agonisante suite au coup qu'il a reçu, est-ce qu'on commence à tester le paludisme? L'inquiétude est là. Est-ce que le document est vrai? Est-ce que le document est basé sur la réalité? Il faut aussi l'investiguer et voir si réellement une personne qui se présente dans un milieu hospitalier après avoir subi des coups et des tortures, que la première chose qu'on teste, c'est la maladie, le paludisme. Mais je laisse le soin à la justice en toute sa droiture de faire des investigations et de trancher sur base de la réalité. Nous devons interpeller chaque citoyen à l'obligation d'observer et de faire appliquer ses droits des enfants.
Isidore Netourouye, coordinateur national de la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, FENADEB en sigle. Les réserves cotonnières ont été réduites, passant ainsi d'environ 9 000 hectares à 3 000 hectares sur tout le territoire national actuellement. Affirmation du directeur général de la compagnie de gérance du coton, Cogerco en sigle. C'est après qu'il a été constaté que la production du coton a chuté en Provence et Bubanza. Gustave Majambéré rassure cependant que des initiatives sont en train d'être menées pour redynamiser cette culture industrielle. Suivez-le, il s'entretient avec Linibel Nibigira.
Le secteur cotonnier du Burundi, aujourd'hui, je dirais que ne se porte pas très bien. C'est par rapport aux années antérieures. Il y a beaucoup, comme vous le savez, il y a beaucoup d'années, la culture du coton était une culture qui rapportait beaucoup de devises au pays et qui aidait aussi les cotoculteurs à s'auto-développer. C'est-à-dire qu'en ce temps-là, la production était grande et aussi le nombre de cotoculteurs était grand aussi. Mais alors, comparativement à la situation actuelle, nous observons que cette production a beaucoup diminué et même le nombre de cotoculteurs que nous avons maintenant a diminué aussi. C'est-à-dire que auparavant on pouvait avoir environ 1000 tonnes de coton, mais aujourd'hui, on a moins de 1000 tonnes. Donc, vous voyez que c'est une grande diminution. Concernant les nombres de cotoculteurs, auparavant, il a été à un moment autour de 20 000 cotoculteurs, mais Présentement, on a moins de 10 000 cotoculteurs. Sur le territoire national, la culture du coton est pratiquée dans la plaine de Limbo. C'est la zone principale du coton de la commune Nougombo de Chibitoke jusqu'à Nyanzalak. Nous avons aussi la région de Mosso. Là aussi, on pratique la culture du coton. C'est principalement dans les communes de Bukemba, de Gyaro, de Kinyinya, de Nyabitinda et un peu vers Kinyinya. Plusieurs actions sont en train d'être menées pour la redynamisation de ce secteur. Nous sommes en train de faire des essais d'adaptabilité avec de petits champs d'essai dans le prolongement de Kumoso vers Chiha dans la province Changuzo et aussi dans la région naturelle de Bugesera.
C'était Gustave Majambere, directeur général de la compagnie de gérance du coton Cogerco. Certains transporteurs de voitures, de motos, de vélos et des tricycles demandent aux prochains élus de mettre en avant la réhabilitation des routes. Ils réclament aussi l'augmentation des heures de travail. C'est au moment où le Burundi chemine vers les élections générales de 2020. Suivez ce micro-trottoir de la radio Isanganiro réalisé en mairie de Bujumbura.
Je suis conducteur d'un tricycle à moteur. Je demande au président qui sera élu de nous assurer la sécurité et d'augmenter les aides de travail. Et cela n'empêche pas que nous pouvons aller jusqu'à 20h par exemple. Dans les bars, on travaille jusqu'à 21h, voire 23h. Encore plus, les taximens travaillent bien.
Je demande la réhabilitation de la voirie urbaine car ça nous facilite et ça facilite aussi les passagers. Les véhicules sont endommagés à cause des nids de poules qui s'observent dans différentes routes. Donc, les routes sont en mauvais état. La première route, c'est la route Mutakula. La deuxième route, où s'observent les nids de poules, c'est la route Kanyoni, sur le côté Ngagal et Bomberge. La même situation s'observe également sur la route Kamenge, qui mène vers la gare du Nord et sur le Kagishotolo. Il faut que ces routes soient réhabilitées.
Nous, les taxis vélos, nous rencontrons beaucoup de difficultés. La police routière ne nous facilite pas la tâche. Nous demandons à celui qui sera élu président d'essayer de trouver une solution parce que nous sommes des citoyens comme tant d'autres et nous devons être traités au même pied d'égalité.
Captez Isanganiro, écoutez la différence.
Le directeur de l'école fondamentale de Mukoni en commune de Rutovu de la province Ebururi est en cavale depuis ce lundi. Hizashe Nizigiyimana vit en cachette après s'être rendu coupable d'un vol de certains examens communaux, ce qui a rendu impossible la proclamation des résultats du deuxième trimestre dans les classes concernées par cette tricherie dans cette commune, selon l'administrateur communal de Rutovu. Correspondance Jean-Pierre Misago.
Après le constat que les examens de fin du deuxième trimestre de mathématiques, des sciences humaines et de Kirundi dans les classes de 7e et 8e ont été trichés dans la direction communale de l'éducation, de la formation technique et professionnelle de Rutovu, une tricherie imputable à Zaché Nizigimana, directeur de l'école fondamentale de Mukoni, qui les aurait donné à trois des écolières de 16 années, la direction communale de l'éducation à Rutovu a décidé l'annulation de ces examens identiques dans toute la commune, selon Salvatore Harimenshi, responsable de cette commune scolaire. Cette situation est à l'origine de la non-proclamation des résultats du deuxième trimestre dans ces classes concernées, ce qui gêne les préparatifs pour le troisième trimestre sans référence des notes obtenu lors des deux premiers trimestres, selon certains parents et élèves contactés. Selon le responsable de cette commune scolaire, il n'y a aucune autre solution que celle d'organiser de nouveaux examens dans ces conditions. Alors que certains parents d'élèves estiment que l'urgence était de traduire en justice le directeur de l'Ecofo, Mukoni, ce dernier est introuvable depuis ce lundi, et à ses parents de penser à une manœuvre visant sa protection. Jean Daitoyeko, administrateur communal de Rutovu, se veut rassurant. Pour lui, il n'est pas possible de protéger son directeur dont la faute est évidente. Jean-Pierre Misago, depuis Bururi, Radio Isanganiro.
Merci Jean-Pierre. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, recommande aux partis politiques de faire preuve de respect mutuel. Sixte Vigné Nimouraba, président de cette commission, a formulé cette recommandation ce mercredi à l'Assemblée nationale lors de la présentation du rapport annuel 2019 de cette commission. Il demande également au ministère de la Justice d'assurer le respect des procédures pénales et d'arrestation civile.
La Commission nationale indépendante des droits de l'homme voudrait adresser les recommandations suivantes. Premièrement, au gouvernement du Burundi, revoir à la hausse le budget ordinaire alloué à la Commission et respecter ses engagements internationaux en ce qui concerne particulièrement la transmission des rapports aux organes de traité. Au ministère de la Justice, il est recommandé d'assurer le respect strict des règles pénales et des procédures pénales en matière d'arrestation, de détention et de l'instruction des dossiers. Aux responsables des partis et organisations politiques de faire preuve du respect mutuel et du respect des lois et règlements relatifs à la compétition électorale. Aux organisations de la société civile, il leur est recommandé d'exercer leurs activités dans le strict respect des lois, règlements et statuts respectifs. À la communauté internationale, il est recommandé d'apprécier positivement les efforts fournis par le gouvernement en matière de consolidation de la paix, la sécurité et situation des droits de l'homme, en vue de les appuyer par la reprise effective de la coopération avec le Burundi dans le respect de la souveraineté et de l'indépendance nationale.
Également dans l'actualité, les frontières actuellement fermées au nord avec le Rwanda et à l'ouest avec la République démocratique du Congo sont réouvertes uniquement pour les camions et véhicules transportant des marchandises. Cela pour permettre la continuité de la libre circulation des marchandises comme convenu au niveau de la communauté est-africaine. Dans une note sortie par le ministère des Affaires étrangères du Burundi, les mouvements de camions et de véhicules qui passent par toutes les frontières avec le Burundi ne feront plus objet d'escorte policière sur tout le territoire burundi. Les chauffeurs de ces camions sont appelés au respect des mesures d'hygiène et de prévention du Covid-19, le coronavirus, en veillant à ce qu'il n'y ait pas de stop improvisé en dehors des lieux d'escale fixés et convenus. Et la population devrait éviter de prendre en considération tous les messages circulant sur les réseaux sociaux concernant le coronavirus afin de se prévenir contre la psychose. Le représentant de Population Media Center signale qu'une des conséquences majeures lorsqu'une personne manifeste une grande peur est le risque d'instabilité psychologique. Jean Bosco Ndayishimiye, psychoclinicien, recommande plutôt de respecter les mesures d'hygiène déjà prises par le ministère de la Santé publique pour faire face à cette pandémie du Covid-19. Ornella Mucho.
C'est possible qu'une personne peut avoir une psychose dans ces jours-ci où l'on observe des messages peureux circulant sur les réseaux sociaux parlant du coronavirus. Jean Bosco Ndayishimiye, psychoclinicien, précise que cela a des conséquences lorsqu'une personne donne trop d'importance à ce genre d'informations.
Celui qui est déjà atteint par la psychose de la peur, c'est quelqu'un qui est instable, avec un regard presque vide. Par exemple, comme on est dans cette période de contagion, celui qui va se livrer à des lavages de mains interminables, même s'il est seul, il va se laver 3-4 fois alors qu'il n'a rien touché. Et c'est quelqu'un même qui peut développer de l'insomnie. C'est quelqu'un qui peut même perdre progressivement l'appétit. Et c'est quelqu'un qui est caractérisé par un changement d'humeur. Il peut sourire un bref instant et sombrer dans une tristesse proche de la dépression pour l'autre partie qui est la plus grande.
Selon lui, la première chose à faire, c'est de toujours respecter les mesures barrières données par le ministère de la Santé pour se prévenir contre cette pandémie.
Moi, je conseillerais à ce que les gens puissent écouter, mettre en pratique les conseils qui sont prodigués par les spécialistes de la santé. Il y a le ministère de la Santé, la mise en pratique, l'exécution, sans rien laisser de côté. Il faut se laver les mains, éviter de toucher, de saluer avec les mains, mettre le coude quand vous voulez éternuer, et éviter les embrassades inutiles parce que ça n'a pas de lien, éviter les rassemblements trop rapprochés, et dans la mesure du possible, observer une certaine distance. Ça, c'est encore une fois faisable. Et là, quand on a exécuté tout ce qu'on vous conseille comme étant les mesures permettant d'éviter la propagation de la contagion, là, on est en paix avec soi-même.
Évitez également de prendre en considération les messages circulant sur les réseaux sociaux, car parmi ces informations, il y a également des rumeurs.
Le deuxième conseil, c'est d'éviter d'avaler toutes les sources d'informations qui vous tombent dans les mains. Ceux qui vendent ces informations, on dit qu'ils se complaisent de voir les gens traumatisés, les gens perdre la tête. Là, il faut éviter parce qu'on ne résiste pas de la même manière. Il y en a qui n'ont pas la capacité ni le temps de sélectionner ou faire une critique minimum pour voir si ceci est exagéré, si ceci est proche de la réalité. En tout cas, comme la rumeur est toujours proche de l'actualité, il est difficile pour certains de faire un discernement et de voir que ceci est exagéré. Alors, si vous avalez tout, ça casse trop rapidement et surtout pour les moins résistants, ça peut être source de fragilité qui peut conduire à l'émergence d'une pathologie mentale telle qu'on en a vu.
Jean Bosco Ndayishimiye, psychoclinicien, révèle que la personne traumatisée ne peut pas le savoir. Il interpelle alors son entourage de l'amener au spécialiste des soins pour la prise en charge.
Ornella Hamucho, la toiture de la tribune du principal terrain de basketball de la province Ngozi a été endommagée par un vent violent lors d'une pluie tombée il y a environ 3 semaines. Certaines des tôles et planches sont pour le moment déposées sur la partie non touchée, d'autres suspendues à l'air, d'où les parents parlent de danger public pour les usagers de ce terrain. Dr Roger Rushingabirgui, président de l'association de basketball de Ngozi, dit avoir contacté les autorités habilitées mais lui ont refusé le droit de réhabiliter cette infrastructure sportive. Apollinaire Muzagara.
Depuis la destruction de cette tribune le 24 mars dernier, une forte affluence des jeunes vacanciers et adultes se constate à ce terrain, pas seulement des basketteurs, mais aussi ceux qui font le karaté durant la pluie ou en cas de soleil accablant. Ils s'agglutinent sous cette tribune en mauvais état. Le président de l'association de basketball d'Ongozi, ainsi que les parents usagers de ce terrain, s'accordent à dire que cette infrastructure constitue un danger public, surtout en ce moment où le début du championnat provincial de basket est prévu pour ce week-end. Dans une correspondance numéro 010-SG.ABN-2020 adressée au directeur du Bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage, le président de l'ABN, Dr Roger Rushingabirgui, informe ce dernier qu'il en a déjà parlé à l'autorité communale et provinciale qui lui ont recommandé d'approcher le BPI. Comme réponse, Justin Ouaoué du BPI Ngozi refuse non seulement à l'association de basket de retoucher ce terrain, mais aussi que personne n'a désormais le droit d'y fréquenter sans l'autorisation du ministre ayant en charge le BPIA, dont ce terrain est situé dans ses enceintes, lit-on dans cette correspondance. Chose qui étonne Dr Roger Rushingabirgui, car d'après lui, l'association utilisait cette infrastructure depuis belle lurette sans passer par cette longue procédure. Malgré cela, dit le président de l'ABN, ce championnat local de basket débute ce samedi. Donc, en commun accord avec les parents, il demande le déblocage de la situation jugée floue de la gestion de ce terrain avant que des dégâts ne soient enregistrés malgré des cris d'alarme. Donc, Ozi, Apone Muzagara, Radio Isanganil.
Merci Apollinaire. Et la Direction générale de la Régie des eaux a mis en place une équipe technique pour identifier toutes les localités connaissant des pannes électriques répétitives et l'état des lieux des installations. Cette équipe devra ainsi faire un devis de matériel nécessaire à acquérir en urgence et ainsi que son coût. Dans un communiqué sorti ce lundi, cette direction rappelle néanmoins que dans certains quartiers, les constructions sur les câbles électriques sont à l'origine des retards dans la réparation des pannes constatées par manque d'accès des équipes techniques aux installations. La Direction générale de la Régie des eaux rappelle aussi au public de respecter les infrastructures d'eau et d'électricité lors des travaux de construction.
Parle, rassure-moi.
Les messages incriminant les enfants pour les crimes de leurs parents peuvent conduire à des cycles de violence. Rémi Haviarimana de la maison Lueur d'espoir fait savoir que ces messages consistent dans le fait de faire porter la responsabilité des crimes à un enfant alors qu'ils auraient été commis par leurs parents. Oben Yankourou.
Les messages qui incriminent les enfants pour les crimes commis par leurs parents peuvent être à la base des cycles de violence. La transmission erronée de l'histoire malheureuse du pays peut donc conduire à la responsabilisation des enfants des crimes qui ont été commis par leur parenté. Rémi Avialimana est de la maison Lueur d'Espoir.
La culture burundaise est d'oralité. Souvent, on a beaucoup plus ce qui a été inculqué par les parents que ce qui a été lu ou entendu par les autres façons. Et ce qui est plus important, c'est justement cette importance que les auditeurs mettent sur ce qui a été dicté par leurs parents. Les différentes crises que le Burundi a dû traverser a laissé beaucoup de blessures dans plusieurs jeunes générations, et parmi lesquelles aujourd'hui nous connaissons des responsables qui sont nés dans la crise. Malheureusement donc, ces informations qui ont été transmises par les parents d'une façon informelle sont connues par ceux-là même qui en ont reçu, et ceux pour qui l'information est donnée ne sont pas informés. Le problème qui est là, c'est que Aubin est qualifié de mauvais, de criminel comme son père et tout ça, et curieusement, malheureusement, comme on le dit en français, tel père, tel fils.
Cet expert en communication non violente indique que de tels messages risquent d'alimenter des cycles de violence.
Nous vivons dans un pays où nous connaissons des cycles de violence depuis les années d'indépendance. Et les personnes qui sont nées à cette période, ce sont celles-là qui sont au pouvoir aujourd'hui. Prenons donc le cas d'un magistrat. Maintenant, il est appelé à prononcer des jugements à l'endroit des personnes qui viennent devant lui. Supposons donc que cette personne reçoit son contemporain, mais dont le papa a commis des méfaits. Malheureusement, le justiciable n'est pas informé de ce que le magistrat connaît de lui. Et là, lorsque cette personne va prendre décision, inconsciemment, il sera dicté par cette information qu'il a dans son mémoire. Malheureusement, la personne peut être victime de ce qu'il ne sait pas.
Pour Rémi Havdarimana, la lutte contre l'impunité peut être l'un des moyens de prévenir de tels messages.
L'impunité, c'est une culture à bannir. C'est vrai que lorsqu'on punit une personne qui a mal agi, ça ne fait pas du plaisir à son environnement, sauf les victimes. Malheureusement, quand même si c'est fait, c'est une page de tournée. Et là, le mieux serait que ses proches soient vexés ou même troublés par le jugement fait, mais c'est une page de tournée, parce que cette fois-ci, ils vont changer de camp.
Faire la part des choses en distinguant les auteurs des crimes et leurs enfants peut aussi être une façon de lutter contre de tels discours.
Merci Aubin Niyonguru, merci Rémi Avialimana pour ces éclairages. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui m'ont aidé à le réaliser. Séraphine Hakizimana se trouve de l'autre côté de la baie vitrée au micro Jean Bosco Nduimana. Passez un très bon après-midi.